c'est la tentative de donner une explication philosophique de ce qui se passe. Normalement, la philosophie essaie de comprendre ce qui se passe. Autrefois, c'était par exemple le Capital. Marx a fait quelque chose à ce sujet. Évidemment, dans le petit de la chose, et je crois qu'il y a un changement en train de se passer qui est pareil à celui du Capital, qui c'est le web. Donc, il faut faire, disons, une interrogation philosophique du web. C'est quoi le web? Qu'est-ce qu'il fait dans nos vies? Qu'est-ce qu'il produit? Alors, là, c'est un néologisme lamentable, mais je trouve nécessaire, c'est-à-dire, on sait que la société a besoin de documents. Au fond, ce qu'on est en train de faire en ce moment même, c'est de produire un document qui porte sur ce qui se passait. Vous avez dit la date. On est en train de faire un document. Et en même temps, ces documents, maintenant, sont produits d'une façon immensément plus ample qu'autrefois. Si on imagine qu'est-ce que c'était la production des documents, même il y a 20 ans, c'était rare, délibéré, déterminé. Maintenant, avec nos portables, on est toujours en train de produire des documents, ce qu'on appelle big data, ça signifie grand document. Et en plus, donc là, c'est le pouvoir de la documentalité, de ce que j'appelle la documentalité, le rôle du document dans la réalité sociale. Mais en même temps, ces documents entrent dans un circuit de médias qui n'est plus le circuit traditionnel, c'est-à-dire il y a un émetteur et quelqu'un qui reçoit, mais on est tous en même temps producteurs et récepteurs de messages. Ceci crée une situation qui est complètement différente, qui est en train de changer non seulement notre, disons, mode d'emploi du temps, quand c'était dans les vieux médias, regarder la télé, mais l'organisation sociale de notre vie avec une force, et là c'est l'hypothèse qui est à la base de cette analyse, qui a la même puissance que celle de l'industrialisation au 19e siècle. C'est-à-dire on est dans un partage qui a la même puissance que, disons, l'invention des grandes usines au début du 19e. Oui, justement, qu'est-ce que le web? Puisque c'est curieux, c'est comme les poissons qui ne savent pas qu'est-ce que l'eau, au fond, puisqu'on vit dans le web, mais on n'a pas l'idée claire de qu'est-ce que le web. Je crois que si on posait la question à des gens différents, on aurait des réponses différentes, et le plus des gens diront, je crois, que c'est un système de communication, d'information, comme si c'était une super télévision. Moi, je ne crois pas que c'est une super télévision. C'est un dispositif d'enregistrement. C'est d'abord enregistrement et seulement après communication. Et c'est le pouvoir d'enregistrement qui fait la puissance du web, puisque tout est inscrit et ceci permet de justement créer des documents, construire des objets sociaux, construire des connaissances sur nous, et c'est ça le web. Moi, je crois que c'est vrai la seconde hypothèse que vous avancez, justement, puisque normalement, il y a cette idée, bon, le web, c'est l'extrême forme du néolibéralisme, c'est le dernier sort du capital, c'est le dernier cri du capital. Moi, je trouve que, au fond, on est entré dans une vie qui est complètement différente de celle traditionnelle du capital. C'est-à-dire que d'abord, la production des biens, de marchandises est désormais secondaire par rapport à la grande production qui est celle de documents. Nous tous sommes d'abord producteurs de documents et il y a au fond une petite minorité qui produit effectivement des marchandises et cette petite minorité va être de plus en plus composée par machines. On ne travaille plus, mais on est constamment mobilisés. Là, c'est une autre transformation. L'économie capitaliste supposait l'aliénation, c'est-à-dire quelqu'un qui allait dans une usine ou dans un bureau et pendant 8 heures ou 10 heures faisait toujours la même chose. Maintenant, nous tous sommes dans la situation de l'homme libéré de Marx, c'est-à-dire on fait toujours des choses différentes, on change continuellement, on n'est pas payé en plus, et c'est ce qui est un problème, mais ce n'est plus le système du capital. Et pour finir, le capital s'appuyait sur les classes sociales. Il y avait une identité sociale bourgeoise, une identité ouvrière. Maintenant, il y a l'atomisation complète des identités sociales. Je dirais que c'est un communisme sans communauté, puisqu'au fond, c'est une situation de nivellement horizontal et tout un chacun a sa propre individualité. Ce sont comme des monades, donc plus d'identité de classe. Et là aussi, c'est quelque chose qui représente l'un des buts du communisme, c'est-à-dire la société sans classe. Alors, je ne veux pas dire que c'est la réalisation du grand rêve du socialisme, pas du tout, mais je dis que ce n'est plus du capitalisme. La post-vérité, c'est justement, disons, la cacophonie d'une multitude d'individualités, chacune convaincue avoir raison. Puisque on se trompe parfois sur la post-vérité, c'est comme si on avait inventé le mensonge. Évidemment, les mensonges étaient inventés depuis pas mal de temps, donc c'est pas tout nouveau. Ce qui est nouveau, c'est le fait que tout le monde croit avoir raison et accuse les autres de dire des post-vérités parce que tout le monde, c'est comme cette justement identité individuelle. On a la réponse. Là, c'est intéressant puisque une question philosophique importante qu'on se posait par exemple à l'école, qu'est-ce qu'une monade? On ne comprenait jamais qu'est-ce qu'une monade vraiment, puisque une monade, c'est une force qui représente tout l'univers de son point de vue. Jamais on arrivait à comprendre qu'est-ce qu'une monade. Maintenant, on le comprend très bien. C'est chacun de nous qui comprend tout l'univers, le World Wide Web, de son point de vue, de son propre point de vue. Et c'est là qu'il se produit la post-vérité. La démocratie à venir. La post-vérité réalise. Ce n'est pas un mal, je veux dire. Normalement, on dit c'est une décadence, qu'est-ce qu'on est devenu. Mais si on pensait comment c'était l'humanité il y a 40, 50 ans, au fond, c'est mieux maintenant qu'ailleurs, puisqu'on n'est plus dans un troupeau idéologique où tout le monde partage les convictions des autres. Et donc, on a réalisé le premier impératif des Lumières selon Kant, c'est-à-dire apprendre à penser avec sa propre tête. Mais la démocratie à venir serait la réalisation du deuxième impératif kantien des Lumières, c'est-à-dire apprendre à penser en se mettant dans la tête des autres.